Notre invité, il est là.
Oui.
Médecin Karim El-Ayoubi, comment allez-vous?
Oui, bonjour, ça va bien, vous deux?
Oui, ça va bien.
Oui, ça va bien.
Malgré tout, ça va bien pour les médecins aussi, là, on a une entente?
Oui, clairement. Je peux vous dire que ça a rassuré quand même pas mal de gens lorsque cette entente-là, juste pour vous dire, sur le terrain, il y en avait qui étaient dans un état de panique. Il y avait des cliniques qui étaient sur le bord de fermer. Il y avait, disons que, à tout le moins, là, sans être parfait, ça colmate là, l'hémorragie à l'heure actuelle. Je pense que le premier ministre a fait la bonne chose en tassant M. Dubé clairement, puis d'envoyer la présidente du Conseil du Trésor, Mme Duranceau, pour négocier. Elle avait naturellement là, beaucoup plus la confiance des deux, du moins de la Fédération des médecins omnipraticiens, parce que pour les spécialistes, on ne sait pas ce qui arrive à l'heure actuelle. Ce qu'il faut dire dans cette entente-là, c'est que d'un côté, le gouvernement a obtenu la base de ce qu'il voulait, en ce sens que lorsqu'on regarde le titre de cette loi-là, de la loi 2, c'est censé être pour changer le mode de rémunération,
ouais.
En l'occurrence celui des omnipraticiens, pour qu'il y ait un pourcentage plus élevé à la capitation. Lorsqu'on regarde l'entente, c'est 50% à la capitation pour augmenter le nombre de prises en charge. Donc, plus vous prenez des patients en charge, plus vous êtes payé. 20% à l'heure et 30% à l'acte, OK? Ce qui fait du sens au départ, puis ça aurait dû s'en tenir à ça, d'augmenter la capitation. Il y a des modèles performants sur la planète qui ont un pourcentage de capitation même encore plus élevé que ça. Donc, au départ, ça faisait du sens, mais ils ont retiré parce qu'ils se sont rendus compte, ils ont refait leur calcul, puis ils se sont rendus compte qu'avec leur calcul, il y avait des pertes de revenus de 30-40% faisant en sorte que les cliniques étaient plus viables et les GMF, plusieurs GMF auraient fermé, les patients se seraient retrouvés à faire la file d'attente à l'urgence. Donc, on aurait perdu des structures de base, parce que oui, ça prend des humains pour voir les patients, mais ça prend des structures aussi, puis les patients n'auraient pas pu, imaginez-vous, des patients qui auraient refoulé complètement à l'urgence, faire la liste d'attente, la file d'attente pour aller se faire renouveler leurs médicaments. Là, je veux dire, c'est pas ça aurait été complètement inconcevable. Donc ça, ils ont enlevé...
Les points, je les ai. On va les faire un par un,
oui,
puis on va peut-être les commenter. Mais tout
oui,
ça pour
absolument.
Ça, là, parce que là, on a un gouvernement qui est entêté, un ministre qui voulait jouer, je ne sais pas à quoi il voulait jouer, là. Ils voulaient être plus fin que fin, puis finalement, ils ont reculé sur pas mal de points, là. Je regarde retrait des indicateurs de performance basés sur le volume, notamment. Donc ça,
oui,
ça en est un exemple là, de retrait du gouvernement.
Oui, tout à fait. Sur le volume, c'est-à-dire que... Parce que il y avait comme un paradoxe, c'est qu'on dit qu'on veut que vous preniez plus de patients en charge. Ça, c'est correct de prendre plus de patients en charge, mais si vous êtes obligé, le but de prendre des patients en charge, c'est de faire aussi d'avoir qu'il y a plus de patients qui aient accès à un médecin, mais c'est aussi d'avoir un mode de rémunération qui fait en sorte qu'on ait une médecine de plus haute qualité, puis qu'on évite des reconsultations. C'est un peu le but, là, quand on regarde dans la littérature médicale, c'est un peu ça le but de la capitation. C'est sûr que si en plus vous avez de la capitation, puis en plus vous avez des pénalités au volume, vous perdez l'intérêt de la capitation en soi, là, sur le plan de la qualité des soins.
Autre point, retrait des pénalités financières, dont les coupes de 13% prévues pour les médecins de famille. Donc ça, on a enlevé ça.
Oui, parce que les pénalités, il faut se rappeler, les pénalités financières, c'était, il y avait comme de la correction négative, c'est-à-dire c'était pas des incitatifs si vous en faites plus, c'est si vous n'atteignez pas votre cible, on vous retranche votre salaire.
Alors que tu dois leur donner des cibles de performance davantage que des pénalités, je sais pas, là.
Tout à fait. C'est ce qui fait beaucoup plus de sens.
Bon, retrait des pastilles de couleur pour définir l'état de vulnérabilité des patients, des pastilles qui étaient liées à la loi 2 à la rémunération des médecins.
Ah oui, parce qu'il faisait aucun sens. Puis il faut dire qu'il y a en ce moment un système à 20 facteurs où est-ce que les patients de 1 à 20 sont classifiés en fonction, il y a des codes précis, par exemple le code 5, c'est si vous êtes diabétique, vous êtes coté 5. Donc, si vous prenez ce patient-là en charge, vous êtes plus rémunéré que si vous prenez un patient qui est en super forme à 22 ans. Ça existe déjà. Le problème, c'est qu'il avait fait, un système beaucoup trop simpliste. Le système, c'était pastille verte, vous n'êtes pas vulnérable. Après ça, jaune, vous l'êtes un peu. Orange, vous l'êtes pas mal. Puis rouge, là, vous êtes un très grand malade. Mais le problème, c'est que lorsqu'on regarde ça, on a l'impression que c'était des fonctionnaires qui avaient fait les pastilles, parce que dans le verre, il y avait par exemple les nouveau-nés. Ça n'a absolument aucun sens. Un nouveau-né, c'est super fragile. Et donc, et c'était les fonctionnaires qui déterminaient ça et qui déterminaient qui vont être vus en premier. C'est les fonctionnaires qui déterminaient l'horaire des médecins. Ça faisait absolument aucun sens. Et ça, le collège était sorti par rapport à ça pour dire qu'il y avait un danger potentiel de mauvaise pratique et de diminuer l'accès aux soins à des gens qui en auraient besoin. Donc ça, il y avait vraiment une composante de danger pour la population avec ces pastilles-là.
Non, écoute, puis bon, là, on se ramassait avec des gens qui auraient été verts puis qu'il aurait, mettons, été pas suivi pendant un certain temps, et le pof!
Deviennent rouges du jour au lendemain.
Les produits, les problèmes arrivent.
Ben oui.
Puis là, on est obligé de gérer en panique quelqu'un qu'on aurait peut-être vu venir en amont, là.
Ben oui, il faut bien comprendre que, tu sais, dans la médecine familiale, il y a une grosse portion de la pratique qui est de la prévention.
Exactement.
Si vous, parce que vous êtes vert, vous êtes tard, parce qu'on est dans un système de rationnement, comme on dit régulièrement, ben vous êtes tassé dans un coin qu'on ne vous voit pas pendant des années.
Puis là, bang, t'arrives avec un cancer parce qu'on t'a pas vu pendant un certain temps, tu sais.
C'est vraiment pas intelligent comme façon de fonctionner.
Non, c'est ça. Je pense qu'ils l'ont compris. En tout cas, oui. On espère qu'ils l'ont compris. Retrait des articles qui portent atteinte aux libertés fondamentales. Ça aussi, c'est spécial, là.
Ben moi, je pense qu'ils ont dû regarder avec quelques juristes, puis ils ont dû dire au moment où ça va aller sur le fond dans les devant les tribunaux, ça va se faire battre ces affaires-là. Moi, je pense qu'ils ont eu des conseils de juristes ici pour dire regardez là. Et la façon de l'appliquer, on en avait parlé dans une chronique antérieure.
Ouais.
Comment vous voulez appliquer ça, là, courir après quelqu'un qui est rendu en Ontario aux États-Unis? Je veux dire, l'applicabilité faisait juste aucun sens.
Oui, puis là, on surveillait, là. Et on était en train d'embaucher chez Santé Québec des supervisors, là, des stools là, qui se seraient promenés ces étages. Puis là, ils se sont parlé eux autres à machine à café quand vous avez le temps de prendre un café. Là. C'est particulier là, comme régime. Là.
Très spécial, Pierre. Regardez, c'est comme si, par exemple, moi, dans la clinique où je travaille, il faudrait que je me nomme délateur en chef.
Oui.
Soit que je nomme un autre médecin délateur en chef de la clinique, mais lui, le délateur, il est surveillé par un délateur de Santé Québec.
C'est la Stasi, là.
et lui, il est inspecté, et si on se rend compte qu'il délate pas bien, il est sanctionné. Non, mais vous voyez, là, l'ambiance de travail est catastrophique, tout le monde est stressé de voir le politburo arriver.
Oui, il y a ça. Puis l'autre chose, retrait du pouvoir du ministre de la Santé de modifier l'entente par voie réglementaire.
Oui, ça fait quand même... C'est parce que lorsque le ministre se donne des super pouvoirs comme ça, de modifier par règlement à tout bout de champ, c'est que vous êtes dans le royaume de l'arbitraire puis dans le climat d'incertitude. C'est que lorsque vous faites une entente, l'entente, elle vaut pas grand-chose si le ministre peut la déchirer n'importe quand ou la modifier par règlement. Donc ça, c'est comme pour assurer une stabilité, pour dire, regardez, on signe ça pour 5 ans, c'est ça qui va se passer. Donc vous pouvez, organiser votre pratique puis organiser votre prise en charge de patients et vous savez que pour les 5 prochaines années, ça changera pas. Là, c'est pas pour les 5 prochaines années parce que comme il n'y avait pas eu de nouvelles négociations, la fin de l'entente, c'était 2023. C'est en vigueur depuis avril 2023 et ça va être jusqu'en avril 2028. Donc là, c'est comme pour les 3 prochaines années
et quelques mois. Autre chose, Québec abandonne l'objectif d'affilier toute la population à un milieu de soins au 1er janvier 2027. Il fixe plutôt une cible de 500 000 patients supplémentaires au 30 juin 2026, dont 180 000 dits vulnérables, prise en charge effectuée de façon volontaire et non obligatoire.
Oui, ça, c'est-à-dire, et ça, il y a un incitatif de performance de 2,5% qui va être donné, c'est-à-dire s'il y a 500 000 patients, dont 180 000 vulnérables, qui sont pris en charge d'ici l'été prochain, juin prochain, il va y avoir une bonification de 2,5%. Donc, c'est un facteur de performance qui est, comment je peux dire, positif au sens qu'il n'est pas négatif. C'est pas on vous en pute, on vous en donne plus. Et c'est plus raisonnable. C'est parce que la façon que M. Dubé voulait faire les choses, il voulait faire en sorte que tout individu soit automatiquement affilié à soit un GMF, soit un CLSC. L'intention est très noble. Mais c'est que si vous êtes tout le monde est affilié,
ouais.
Et le problème, c'est que Ben là, vous allez avoir moins de temps. C'est bien beau de dire que vous êtes affilié à un GMF ou affilié à un nom de médecin. Moi, si vous êtes affilié à mon nom, mais vous, quand vous prenez rendez-vous, ça prend 8 mois.
Ben oui, mais c'est ça.
Je veux dire, vous allez vous ramasser à l'urgence plus souvent qu'autrement. Donc, cette cible-là est une cible qui est plus raisonnable dans les circonstances. Mais oui, ultimement, ce qu'on veut, le but, là, c'est que tout le monde a accès à un médecin. Et là, quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que le guichet d'accès à la première ligne, ils l'ont poursuivi. Ça, le guichet d'accès à la première ligne, ça permet à un patient orphelin d'être vu par un médecin ou par une infirmière ou par un physio en fonction de ce... De... Mais ça, ils voulaient l'enlever, mais là, temporairement, ils l'ont
gardé. Ils laissent là. Et regarde, ouais. Il y a aussi le programme des groupes de médecine de famille, les GMF, qui demeurent comme tel quel.
Qui demeure tel quel pour assurer la stabilité, faire en sorte qu'il n'y a pas de GMF qui vont fermer. Et il y a une bonification à partir de 2027, là, je crois que c'est avril 2027, il va y avoir 10 millions de données par année pour les GMF afin que les GMF puissent engager plus de personnel, okay. Dont, par exemple, physiothérapeute, infirmière clinicienne, travailleur social.
Donc, le son de cloche que vous avez, là, on dit que les médecins de famille ont jusqu'au 19 décembre, donc vendredi cette semaine, pour se prononcer sur cette entente de principe-là. Est-ce que ça passe, ce deal-là, selon vous?
Ben, moi, je pense que oui. Je pense qu'à un moment donné, si les médecins ne signaient pas ça, il faut bien comprendre là, que...
C'est la loi 2, là. Oui, c'est ça. Là,
ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que s'ils refusent de signer ça, ben, moi, je pense, dans un monde idéal, la loi 2 devrait juste être abolie.
Ben, selon moi aussi.
Puis une autre qu'il faut pas, parce qu'à un moment donné, quand tu es rendu à amender là, le trois quarts de ta loi, ça veut dire que ta loi n'a pas de bon sens, puis il faut que tu repartes de zéro, puis tu t'en tiennes au mode de rémunération, à la capitation, ce qui fait du sens. Mais là, dans les circonstances, je pense que les médecins se doivent de signer parce que sinon, par rapport à la population, là, ça aurait l'air de dire, oh, t'as peu, moi, on veut vraiment pas mettre d'eau dans notre vin.
Non, c'est ça.
Donc là, le gouvernement met quand même de l'eau dans son vin pas mal. Il fallait qu'il le fasse parce que sa loi avait pas de bon sens. Mais si les médecins refusaient de signer cette entente-là, je pense que l'opinion de la population pourrait se revirer à ce moment-là. Ouais. Et ce serait pas intelligent de la part des fédérations. Mais là, la fédération de la FMOQ, elle, l'état-major de la FMOQ est en accord. C'est pour ça qu'il la présente.
Il la recommande, hein? Il la recommande aux membres. Là.
Oui, il la recommande aux membres, mais c'est les membres qui ont le dernier mot. Au final, mais moi, je serais très déçu des membres s'ils ne la votaient pas parce que je pense que le gouvernement a reculé sur beaucoup, beaucoup de choses.
Et là, les spécialistes aussi, on dit qu'on pourrait avoir une entente sensiblement de cette nature-là aussi. Donc, la paix sociale, c'est ça qu'on voulait pour 2026?
Oui, ben, je pense parce qu'à un moment donné, je veux dire, dans une pyramide inversée avec une société vieillissante comme ça, si le système de santé, déjà, il va pas bien, si on se met à perdre des professionnels, que ce soit des médecins omni-spécialistes ou des infirmières, on est déjà en manque d'effectifs. C'est la dernière chose qu'on veut, puis on a besoin de soigner le monde. Donc, à partir de ce moment-là, il faut s'assurer là, qu'il y ait le peu de stabilité qu'on a dans le réseau de la santé, il faut s'assurer de le garder au moins d'ici à ce qu'on soit en mesure d'avoir un réseau qui est beaucoup plus fort avec des réformes beaucoup plus colossales.
Voilà. Docteur El Ayoubi, merci beaucoup. Et je vous remercie également parce qu'on a eu nos chiffres la semaine dernière, ouais. nos sondages Numéris. Et le show de Couture dans le mythe, ben c'est 33,3 parts de marché. On est numéro un et il y a une partie de ça qui vous revient. Fait que je voulais vous remercier de votre collaboration dans le show.
Ah ben je vous remercie beaucoup et je vous félicite tous les deux. Vous faites un excellent show. C'est pas merci. Pour rien que vous êtes numéro un.
Ben merci beaucoup. Et là, si on ne se reparle pas avant les fêtes, parce que ça arrive vite, là, ben on va souhaiter des joyeuses fêtes, bonne année et 2026, qui sait, hein, tout est possible.
Oui.
ben oui, joyeuses fêtes à vous deux. Là.
Merci. Bye,
même.
Voilà. Donc, c'est ça. Je voulais décortiquer avec lui le deal, l'entente de principe avec les médecins de famille, puis voir ce qu'il en pensait. Il y a quand même des points où le gouvernement recule. Là. Il y a 6-7 points là, majeurs.
Quand même.
J'espère que ça va passer, ce deal-là. Là.
Je crois que oui. La panique s'estompe.
Oui, puis
pense que...
là, on a vu aussi que les salaires, les médecins au Québec sont beaucoup mieux payés qu'en Ontario. Je pense qu'ils sont un des mieux payés au Canada. Là. Donc, il y a ça aussi. Fait qu'avec tout ça, là, je pense qu'on va lisser. Mais quelle rebuffade, ministre Dubé.
Hey, Tout ça pour une année perdue.
Oui, tout ça pour ça, pour faire le petit coq, puis se lever, ouais. Puis dire, moi, je vais leur montrer. Ouais. Liberté.
Finalement, pouet.
Oui, bien, Dubé, d'après moi, il va boire sa cuvée Liberté, lui, en toute conscience.
Ah oui, hein?
Dans le temps des fêtes.
Okay.
C'était du sirop d'érable, hein, sa cuvée Liberté.
En Floride?
Oui, c'est ça. Oui, oui, chez Donald Trump, là, l'ennemi public. Ouais, ouais. Voilà.
En Floride, il n'y a pas de problème.
Voilà, voilà. Hey, après la pause, Gabriel Giguère débarque. Là, on jase. On jase de l'état des infrastructures.
Ah, OK.
Hein, c'est pas pire.
Ça va très bien, là, ce côté-là aussi.
Oui, le vérificateur général nous dit que ouais. Le gouvernement projette des infrastructures, mais sous-estime les coûts tout le temps, comme le troisième lien, là. Une espèce de patente de Témou, là. Hein, un troisième lien de Témou. On en parle avec lui au retour.
Couture.
Petite pause. On revient dans pas long.
Dans le mid.
Ouais.
Radio X.